circuit.
Meine Damen et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Vous êtes bien toujours à l'écoute de Radio Canu. Après Angle Mort, c'est au tour de la causerie. Et comme elle le disait Nadia, eh ben c'est parti. Eh ben ce soir, ouais, je suis essoufflé. Hein. C'est
oui,
un marathon. Hein. Enfin bon. Pardon, ce soir, à la causerie, donc il y a Fab qui sera
Salut.
Là. Enfin, qui est là. Il y a Clara qui est à la technique.
Hello.
Et puis moi-même, Jean-Yves.
Et puis Jean-Yves qui a fait un marathon avant d'ouvrir la causerie.
Oui, c'est ça. Et avant de continuer, on va quand même faire quelques petits bisous, parce
oui.
qu'on est comme ça. Et on fait des bisous aux causeuses qui sont pas là, à savoir Jonathan, Emma et Nadège.
Salut, salut, bisous, bisous. Je sais
voilà.
pas, il fallait le faire, il paraît, donc c'est fait.
Ok, c'est fait. Alors... comme d'hab, enfin, la causerie, c'est toujours ouvert à la discussion, à la causerie. Hein. Donc aussi, si vous êtes artiste, des assos...
Quelqu'un qui avait quelque chose à dire.
Voilà. Eh bien, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous joindre par mail. Fab, tu peux peut-être rappeler
lacausericanu@gmail.com.
C'est ça.
Tout attaché en minuscules.
Ouais. Faut pas oublier le canu.
Oui, oui, voilà, faut pas.
Voilà. Et puis, sinon, vous retrouvez aussi toutes les causeries précédentes sur le blog de la causerie, qui est à blogs, donc blog au pluriel, .radiocanu.org/lacauserie. Voilà.
Ça.
J'ai tout bien dit.
T'as tout bien dit. Voilà,
merci.
On a aussi un petit espace sur Facebook, mais.
Ah ouais, c'est ça.
Mais communiquez pas avec nous par là. Allez plutôt sur le mail ou le blog.
Ouais, c'est plus sympa parce que ouais. ça permet à tout le monde d'avoir accès aux échanges qu'il peut avoir sur le blog
c'est
en commentaire. Voilà comme des précisions par exemple que Georges a apportées à quelqu'un qui a posé une question sur une des émissions d'astronomie. Voilà un exemple.
Ok. Pardon.
Non mais c'est pour totalement. Enfin non
mais oui,
vraiment
okay.
c'est parce. Enfin bon. Alors ce soir c'est Fab qui va beaucoup causer.
Ah bon? Ah oui, c'est vrai.
Bah ouais, quand ouais, même. C'est toi qui cause beaucoup ce soir. Mais je vais tâcher de t'accompagner au mieux.
Ouais, puis Clara peut-être aussi un peu.
Éventuellement. Ouais. C'était pas prévu, mais bon.
Oh, mais voilà.
Le blanc. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi?
Je suis là pour la technique. Voilà.
Pardon. Ah, pardon. Et tu voulais commencer. Enfin, donc, on va quand même avoir.
Trois sujets.
Ouais. C'est juste qu'on les. Enfin, c'est Fab qui les apporte, on va dire, principalement, et on va essayer d'en causer autour. Et le premier, c'est tu veux nous causer d'un truc qu'on a déjà vu aux États-Unis, en fait.
Ouais, et qui vient d'arriver en Europe.
Qui vient d'arriver en Europe, et c'est là.
Eh bien, en fait, c'est la baisse de l'espérance de vie. En fait, pour. Oh, il y a un effet écho, je sais pas ce qui. Je sais pas, c'est tout bizarre. Voilà. Je parle normalement. Non, excusez-nous, auditeurs et auditrices, c'est un petit souci de technique. Voilà. Alors là, on reprend. Donc, c'est la baisse de l'espérance de vie. Et effectivement, en fait, comme tu le soulignais, Jean-Yves, aux États-Unis, il y a depuis un certain nombre d'années, maintenant, c'est la troisième année consécutive, une baisse de l'espérance moyenne de vie. Alors, je vais rappeler juste quelle espérance de vie moyenne, c'est-à-dire c'est l'espérance de vie jusqu'à laquelle, c'est l'âge à laquelle 50% des gens meurent obligatoirement. Voilà. Donc on dit, en gros, c'est la moyenne des gens. Vous voyez, c'est pas une médiane, c'est voilà. Non, pardon, c'est pas une connerie d'ailleurs. Pardon, c'est pas une médiane, c'est une moyenne. Donc c'est à dire que justement, il y a des gens qui meurent beaucoup plus jeunes et des gens qui meurent vers très 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 vieux. Ce qui fait quand vous faites la moyenne, vous arrivez à ce chiffre-là. Et justement, j'ai dit une énorme connerie. C'est pas 50-50 parce que c'est pas une médiane, c'est bien une moyenne. Alors pourquoi c'est important de retenir que c'est une moyenne? Ça veut dire que selon votre classe sociale, vous ne mourrez pas aux mêmes dates. Hein, c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est quand on fait la moyenne, et ben on prend les gens qui vivent très bien et qui n'ont jamais travaillé de leur vie, et on moyenne ça avec les gens qui sont obligés de travailler 50 heures par semaine, ou dans des conditions terribles. Donc forcément, ça donne quelque chose d'assez faux déjà au départ. Mais on se base beaucoup sur ce chiffre-là. Alors en France, l'espérance de vie, elle est à 78,9 ans en moyenne pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Voilà. Alors quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'en fait, comme je le soulignais juste avant, l'espérance de vie, ça prend un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur de ce chiffre-là. Alors déjà, il faut savoir qu'en France, on a une drôle de façon de calculer l'espérance de vie, parce qu'on retire systématiquement les décès d'enfants prématurés. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève, on n'a pas les mêmes chiffres que l'OMS. Donc on a déjà une espérance de vie un tout petit peu plus élevée, parce qu'on ne compte pas les enfants morts en dessous d'un an. Donc forcément, ça fausse un peu les chiffres.
En dessous d'un an?
Oui.
Ah mais...
Il y a des enfants, pardon, qui meurent avant un an, oui, ça existe.
Non, mais alors c'est pas pour ça, mais c'est sur quoi on s'appuie pour ne pas les compter.
En fait, sur quelque chose de simple, c'est qu'en fait on a une vieille tradition européenne, parce qu'il n'y a pas que la France, l'Allemagne fait la même chose, qui dit que ben la viabilité d'un enfant c'est un an. Ça.
D'accord.
Me demandez pas d'où ça sort, c'est un truc médical. Il devait y avoir ça il y a depuis des siècles, et on n'a jamais enlevé ce chiffre-là. Bon. Ce qui fait qu'en fait, ça fausse un tout petit peu, mais ça ne change pas grand-chose. Hein. Mais c'était juste pour dire que déjà, au départ, un chiffre, ça se travaille. Mmh. Hein, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Alors déjà, on nous dit, oui, l'espérance de vie, elle a baissé. Alors, on a perdu 0,3 années pour les hommes et 0,4 années pour les femmes en 2015. Donc voilà, c'est un petit peu le chiffre qui a fait la une des médias. Et alors très très vite, hein, on a des gens qui sont venus en courant en disant « Ouh là là, non mais vous inquiétez pas, en fait c'est des facteurs conjoncturels qui font ça. Donc s'il y a une légère baisse, c'est à cause de la grippe, parce qu'elle a été très forte cette année, et de la canicule qu'il y a eu cet été. » Alors on va arrêter de dire des conneries, parce que la grippe c'est saisonnier, hein, donc comme vous le savez, chaque année ça revient, c'est un petit peu comme les impôts. Donc du coup, si la grippe avait une influence aussi forte sur...
Oui, enfin, ça aurait fait des milliers de morts.
Bah, oui, et puis surtout vous l'auriez vu les années précédentes, parce que la grippe elle est forte une fois sur trois. Oui. Donc en fait, tous les trois ans, vous auriez une baisse de l'espérance de vie. Alors qu'en fait, pas du tout. non, c'est parce que j'ai... Pardon. Je suis très perturbé ce soir. Donc oui, déjà ça marche pas. Ensuite, la canicule, c'est pareil. La canicule de 2003, elle n'a pas donné lieu à une recul de l'espérance de vie. Or, c'est la canicule qui a tué le plus de monde, qui prématurément tué le plus de monde de ces 20 dernières années. Donc on voit bien que ce sont un peu des arguments pourris pour essayer de cacher ce qui pourrait effectivement avoir un impact sur l'espérance de vie. Et en fait, il y a un chiffre qu'on donne jamais, parce que celui-là, il est un peu plus embêtant. C'est que l'espérance de vie, comme je vous disais, c'est une moyenne. Mais il y a un chiffre qui existe et qui lui est très très officiel, qui est un chiffre de l'OMS et qui s'appelle le VSI. Alors là, on va me dire, oui, c'est quoi le VSI?
C'est quoi le VSI? Voilà.
Et bien en fait, c'est l'espérance de vie sans incapacité. C'est-à-dire que c'est la période de vie durant laquelle vous vivez sans avoir de problème majeur de santé. Alors l'incapacité, ça commence quand vous êtes obligé de suppléer votre corps avec un acte médicamenteux. Un exemple typique, vous êtes diabétique, vous avez une incapacité. Vous avez du cholestérol et vous prenez un traitement tous les jours, vous avez une incapacité. L'incapacité, ce n'est pas juste de ne pas pouvoir faire quelque chose, c'est votre corps ne peut plus faire tout seul. Donc vous êtes obligé de le suppléer médicalement. Et bien en fait, ce chiffre-là, il est beaucoup plus parlant. Parce que d'abord, il est très très précis et surtout, il se base sur les données médicales. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on prend les morts d'un côté et on fait une moyenne, c'est on prend vraiment la donnée médicale, on fait des recoupements. Et notamment en France, c'est assez facilité par le fait qu'on a une sécurité sociale où tout le monde est affilié. Donc ça permet de faire des statistiques très précises par rapport à des pays où ils n'auraient pas de système de santé. Et du coup, en France, c'est jusqu'à 63,5 ans pour les femmes et jusqu'à 61,9 ans pour les hommes, vous vivez sans incapacité notoire. Et c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avant cette date-là, commencer à avoir des besoins médicamenteux, et puis des gens qui vont pouvoir vivre plus longtemps sans avoir besoin. On est d'accord. Sauf que ça, c'est une moyenne, et que cette moyenne, elle prend l'ensemble des données. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut surtout dire que quand on vous dit que vous allez pouvoir travailler jusqu'à 63 ou 65 ans, on est tout à fait conscient que pour un homme, vous allez travailler 4 ans en étant déjà en état de faiblesse d'un point de vue médical, et pour une femme, pendant au moins 2 ans, voire 3. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les gens ont ces chiffres, ils les ont, hein, les gouvernants. Hein. Donc quand on a des gens qui vous parlent de travailler beaucoup plus longtemps, ben on va vous dire que vous allez mourir au travail, hein, clairement. Hein. C'est un peu ce qu'on est en train de dire, parce qu'en fait, ce qui est démontré, c'est que les ouvriers, les personnes qui sont classées ouvriers et employés, leur indice, leur EVSI, donc leur espérance de vie sans incapacité, est de 10 ans inférieure à la moyenne. C'est-à-dire que c'est à 51 ans pour un homme et à 53 ans pour une femme que des problèmes de santé majeurs apparaissent. Alors que pour un cadre supérieur, c'est 10 ans plus tard. Ah vous voyez, ouais. Il y a 20 ans d'écart, si vous voulez, entre les deux. Eh oui. C'est-à-dire que pour un ouvrier, c'est autour de 50 ans, 50-53 ans. Et pour un cadre sup, c'est autour de 70 ans, 73 ans. Voilà. Donc vous voyez, quand on vous dit que tout le monde peut bien aller travailler, tout ça, il n'y a pas de problème, on voit bien que qui vous le dit ?
Ben, c'est peut-être parce qu'ils croient qu'on est tous cadres.
Oui, ils ont oublié qu'il y avait des gens.
Ils ont oublié qu'il y avait des gens qui faisaient.
Voilà. En fait. Non, mais c'est des chiffres qui sont très intéressants, ouais. Parce qu'en fait, derrière cette espèce d'effet d'aubaine autour de l'espérance de vie, on vous balance des chiffres et du coup, on vous fait croire, on laisse croire aux gens qu'ils vont vivre bien, sereinement et très bien pour les femmes jusqu'à 85 ans. Sauf que c'est pas vrai. En réalité, ça veut dire qu'une quelqu'un qui est ouvrière, par exemple, ou employée, va pouvoir très bien voir sa vie se dégrader, c'est-à-dire avoir des besoins médicaux fort à partir de 50 ans et vivre effectivement jusqu'à 80 ans, oui, mais avec un support médical extrêmement lourd derrière, c'est-à-dire des douleurs, des névralgies, des problèmes cardiaques, des choses comme ça, et donc ne pas vivre sereinement, mais en fait être dans une vie un petit peu en suspens, comme on dit dans ces cas-là. Et c'est quelque chose de totalement différent de dire l'espérance de vie c'est super bien, ça va très loin, et par contre il vaut mieux tenir compte de l'espérance de vie sans incapacité, parce que sinon ça veut rien dire. Oui.
Et j'ai une question.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Non, c'est justement parce que. Enfin, t'as commencé en disant que l'espérance de vie était en baisse.
Oui.
Et est-ce qu'il y a la même observation
sur l'espérance de vie, sans incapacité ? Ouais. Ouais. Exactement la même, et voire même elle baisse plus vite. C'est-à-dire qu'en fait,
donc
c'est.
On a plus rapidement besoin.
De support médicamenteux. Alors, c'est intéressant parce que justement, ça démontre qu'en réalité, il y a une dégradation réelle du cadre de vie. Parce qu'en fait, tout ça, c'est lié à notre cadre de vie. Alors, il y a des scientifiques qui sont quand même penchés sur ces chiffres parce que, comme ils ont vu qu'aux États-Unis, ça baissait, que ça baisse aussi en France, que ça baisse au Japon, ce qu'on n'avait pas vu d'ailleurs depuis des années. Parce que le Japon était réputé pour avoir l'espérance de vie la plus longue et en bonne santé la plus longue. C'est-à-dire qu'en plus, leur EVSI était très élevé. Il était jusqu'à 11 environ de 70 ans, ce qui est quand même extrêmement élevé pour l'ensemble des Japonais. Donc, voilà. Alors, il faut faire attention à ces chiffres parce qu'en réalité, les suicides, par exemple, ne sont pas comptés. Voilà. Donc, ce qui fait qu'au Japon, ça truquait un peu le chiffre, hein, voilà. Mais bon, fermons la parenthèse. Mais toujours est-il qu'ils avaient quand même. On avait une image du Japon comme étant un pays où on vit très bien et très longtemps. Et en fait, ça baisse de partout. Enfin, ça baisse de partout, surtout dans les pays industrialisés.
Oui, c'est ça.
Et les pays riches. Donc, du coup, il y a des scientifiques qui se sont demandé, mais pourquoi est-ce que ça baisse ? Alors, le premier indicateur qui fait que ça baisse, d'après les scientifiques, c'est les perturbateurs endocriniens. Il y a une étude qui vient de sortir, qui était parue dans The Lancet, qui est quand même une très très grande publication médicale, qui démontre que les perturbateurs endocriniens coûteraient entre 127 milliards et 157 milliards d'euros par an à l'Europe. Et oui, parce qu'entre les maladies, les malformations, les problèmes neuroleptiques, je crois qu'on dit, les maladies auto-immunes que les perturbateurs endocriniens peuvent déclencher, les choses comme ça, ça coûterait ce prix-là à l'Europe chaque année. Hein, j'ai bien dit en année. Donc c'est-à-dire que les scientifiques disent que les perturbateurs endocriniens, c'est déjà la première des causes de la baisse de l'espérance de vie. Alors, c'est quoi un perturbateur endocrinien ? C'est le bisphénol A, dont on a beaucoup entendu parler. C'est tous les plastiques, parce qu'en fait, les plastiques, généralement, contiennent des perturbateurs endocriniens. C'est les pesticides. La plupart des pesticides sont des perturbateurs endocriniens et sont aussi des molécules qui peuvent donner le cancer. Donc, vous voyez, ça fait, hop, combo. C'est aussi quelque chose dont les gens n'entendent pas trop parler, les nanotechnologies, c'est-à-dire tout ce qui est dans les crèmes de jour, dans les déodorants et dans les dentifrices, et puis dans les bonbons aussi, tous ces des molécules nano, c'est-à-dire
oui, c'est ça, qui sont du milli...
Voilà, et qui passent dans le sang, en fait, oui, et dont on ne connaît pas du tout pour l'instant les impacts, mais où beaucoup de scientifiques tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils disent, attention, c'est tellement petit que ça rentre dans les cellules, donc c'est-à-dire que ça doit forcément avoir à un moment donné un effet, parce que généralement, quand quelque chose rentre dans votre corps, c'est, votre corps se défend, alors d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est tout ça. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option que la plupart des scientifiques un peu sérieux, je dirais, c'est-à-dire qui ne sont pas affiliés à des grands lobbies, en fait, c'est sur la malbouffe. Et ça, très clairement, c'est la surconsommation de malbouffe, et notamment de viande malbouffe. Voilà. C'est-à-dire, c'est McDo, et puis comme disait Jonathan la semaine dernière, c'est aussi la malbouffe de luxe. C'est-à-dire, c'est aussi ce qu'on a mangé avant de faire cette émission. Donc voilà, je suis pas en train de donner des leçons, je suis en train de donner plutôt des pistes. Et en fait, cette malbouffe-là, en fait, s'installe énormément. Il faut savoir, par exemple, qu'un enfant, dans les années 50, mangeait à peu près 17 fois moins de sucre qu'un enfant dans les années 2015. Et que ça a une incidence, une influence forcément... sur le développement et sur le corps, hein, faut pas se leurrer.
La consommation de viande, c'est...
Alors la consommation de viande, mais c'est pas forcément la viande qui est elle-même le problème, c'est ce qu'on fait avec. C'est-à-dire, c'est un peu ce que disent les scientifiques, c'est-à-dire que si on mangeait que de la viande grillée, il y aurait pas trop de soucis. Ouais, c'est peu. Alors, hormis le souci écologique, mais ça, je le mets de côté, là, on parle vraiment de la santé. Non, par contre, c'est le fait qu'on mange jamais la viande seule. C'est-à-dire que généralement, on fait un steak frites. Vous voyez, c'est, là, on fait l'espèce de combo. Et surtout, en général, on met de la sauce au poivre en plus dessus. C'est vrai qu'en fait, on mange tout en trop grande quantité, parce qu'on mange trop de viande ou trop de choses comme ça. Et surtout, on mange toujours accompagné d'énormément de choses qui rajoutent en plus. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai lu c'était il y a deux jours, j'ai lu un article où il expliquait par exemple que sur une entrecôte sauce au poivre, il y a plus de sucre que... en fait, vous mangez 3 carrés de sucre. Parce que dans la sauce qui fait la sauce au poivre, il y a du sucre. Et en fait, c'est hyper sucré parce que c'est un exhausteur de goût. Et comme ça, on met moins de poivre, vous voyez ? Et c'est un peu le truc, c'est une entourloupe.
Mais
en fait, au final, ben, en réalité, vous mangez bien moins bien que si vous aviez vraiment du poivre sur le truc. Donc c'est tout ça en fait, c'est ces phénomènes-là. Et donc on peut observer très clairement que dans la presse, on s'est empressé de dire que ça baissait, mais de nous rassurer en disant « vous inquiétez pas, ça va remonter », comme si c'était un peu comme la bourse, vous savez. dans 4 jours, ça remonte. Alors qu'en fait, non, l'espérance de vie, c'est quand même quelque chose qui, quand elle commence à baisser, généralement ne remonte pas d'un seul coup. Il y a des grandes possibilités que l'année prochaine, elle remonte, parce qu'en fait, c'est comme on est à 0,3 années, c'est un delta qui n'est pas suffisant. Par contre, globalement, la courbe, depuis maintenant une dizaine d'années, est clairement en baisse. Et surtout, ce qui baisse, je vous le rappelle, c'est l'espérance de vie sans incapacités qui, elles, baissent dangereusement, ce qui veut dire que nos conditions de vie se dégradent énormément. Et puis oui, le troisième facteur, je l'ai oublié, les déplacements. Les gens ne marchent plus, donc ce qui fait que quand on ne marche pas, on n'use pas son corps, et en fait, il faut l'user un peu pour aller bien. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est vrai.
C'est-à-dire
qu'en fait, notre corps va moins bien si on ne l'use pas. C'est très... Voilà, parce qu'on est des animaux faits pour marcher, normalement, et être debout. On est programmé pour être debout 15 heures par jour. Je crois qu'on est loin de ce chiffre-là. Donc, vous voyez, c'est un peu l'idée, quoi. Voilà. C'est les trois facteurs. Donc, je voulais parler de ça parce que je trouvais que c'était bizarre de ne pas aller sur les pistes qui avaient été avancées par les scientifiques et de juste dire non, mais ça va remonter, vous inquiétez pas. Voilà.
Et bon.
Ben voilà.
On s'écoute de la zik.
Allez.
Allons-y.
Yeah.
Vous êtes de retour dans la causerie et on vient d'écouter Camly qu'on peut trouver sur l'album Barati 2.
Parce que c'était vachement bien Barati. Voilà, je voulais le dire. Oui, parce que Barati, c'est un... Ah mais c'est, j'ai de l'écho nouveau, c'est très étrange, excusez-nous. Oh là là, mais quel... Ah ouais, la technique à Radio Canu, c'est quelque chose quand même. Et donc du coup, oui, Barati étant une comédie musicale qui tourne dans toute la France, qui fait des titres de Bollywood en live, comme on dit.
C'est ça.
C'est beau. Voilà.
Ben oui. Eh bien, on continue. Ah oui, pardon. L'effet surprise.
Qu'est-ce qu'on fait, ça?
Et on continue, tu voulais parler de certaines injonctions.
Oui, alors je voulais en parler, on va en parler parce qu'on on a préparé ensemble, je vais y arriver. Oui, en fait, c'est des injonctions faites aux femmes ces derniers jours que je trouve quand même, personnellement, puis je ne suis pas le seul, assez paradoxales et assez folles. Voilà. Alors déjà, ça a commencé avec, vous savez, la fameuse affaire de Cologne, où il y a eu des agressions sexuelles et où, au lieu de condamner clairement les agressions sexuelles, quels que soient d'ailleurs les agresseurs, voilà, bah on est venu à tergiverser sur est-ce qu'on doit les dire, est-ce qu'on ne veut pas les dire, on les cache pas, oui, mais voilà. Sauf qu'en fait, bah, une agression sexuelle, c'est une agression sexuelle et que du coup, ça a donné des choses assez surréalistes parce que comme les agresseurs étaient désignés comme étant des migrants, on a une partie des gens qui défendaient en disant « Oui, mais à la fête de la bière de Munich aussi, il y a des gens qui se font violer. Hein » ouais, alors ça rend pas l'un plus acceptable que l'autre. Hein. Donc voilà, c'était assez bizarre comme ambiance. On avait l'impression qu'au lieu de focaliser sur le réel problème, qui était le fait qu'il y ait eu des femmes agressées, on essayait de trouver des choses autour. Alors entre l'extrême droite qui faisait de la récupération raciste et une partie de l'extrême gauche qui, d'un seul coup, faisait une espèce de barrière de protection parce qu'ils avaient peur que les migrants soient mis montrés du doigt, alors qu'on ne montrait pas les migrants mais les agresseurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand même, et ce qui n'est même pas du tout la même chose, donc c'est assez fou le climat qu'il y a eu, mais ça s'est pas arrêté là, parce que bon, s'il y avait eu que cette polémique là, on aurait dit bon, récupération politicienne habituelle, et à la limite on n'était pas surpris, même si on était dégoûté. Mais c'est allé plus loin, c'est que la mairie de Cologne a eu la bonne idée d'éditer un guide, ou je sais pas comment, des recommandations. Enfin, c'est assez bizarre comme ça a été fait, ouais.
C'était pendant une conférence de presse, ouais, en fait, où une journaliste a demandé à la maire, j'ai plus son nom,
moi non plus,
quel conseil, en fait, Henriette quelque chose,
ouais.
Quel conseil en fait donner,
c'est ça,
aux personnes.
Mais elle, oui, pardon, c'est parce que je dis guide parce que ça a été mis sur le site de la mairie quand même après cette conférence de presse. Okay. Et donc elle donnait des conseils qui peuvent paraître quand même très très surréalistes, c'est-à-dire que elle conseille aux femmes de ne pas sortir le soir, de porter des pantalons parce que c'était plus difficile en cas de viol. Donc là, on peut être un peu surpris par cette affirmation-là. Et puis surtout, on sait qu'elle est complètement débile comme affirmation. Et puis, de ne pas sortir seule. Et puis, de s'éloigner des groupes de gens.
Voilà, tenir à la distance d'un bras, voilà, de toute personne qu'on ne connaît pas.
Donc voilà, donc vous vous baladez en faisant l'avion. Hein, et toute personne qui est trop près. Donc, en fait, en réalité, c'est ce qui est, ce qui pouvait partir d'un bon sentiment, on va dire ça comme ça. En fait, en réalité, donner raison aux oppresseurs. C'est-à-dire que d'abord, ça laissait entendre que les victimes étaient responsables de ce qui allait se passer ou de ce qui s'était passé, ce qui est quand même hallucinant. Et en plus, c'était vraiment aller dans le sens de ceux qui prônent quand même le retour de bonnes vieilles valeurs, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, juives ou ce que vous voulez, ou même des bonnes vieilles valeurs patriarcales, qui est que la femme, quand même, c'est un objet qu'on doit cacher, qui doit se cacher, qui doit sortir qu'à certaines heures, qui ne doit pas se balader toute seule sans avoir un bon mâle à côté d'elle. Et en fait, c'est là que c'est devenu hallucinant. C'est-à-dire que ces injonctions-là, elles ont lieu en Allemagne, mais elles n'ont malheureusement pas eu lieu qu'en Allemagne. C'est là que ça devient un peu fou, c'est qu'elles ont été exportées plus ou moins, merci les réseaux sociaux, dans des pays comme la Suède ou comme la Norvège, où en fait on disait, mais regardez, la maire de Cologne préconise ça, donc vous devriez le faire, parce que ça éviterait qu'il vous arrive quelque chose. Mais c'est juste surréaliste quand même. D'ailleurs, y a dans Der Spiegel, qui est un journal allemand, il y a une féministe allemande qui rappelait quand même que plus de 85 à 90% des viols avaient lieu non pas dans l'espace public, mais dans l'espace privé, c'est-à-dire avec des gens qu'on connaît, avec sa famille, avec des amis, et que du coup, c'était non seulement, elle disait, ces conseils-là sont archaïques et complètement idiots, mais en plus, c'est nier 90% des viols qui n'ont pas lieu dans les rues parce que vous n'êtes pas à la distance d'un bras d'une personne, quoi. Et donc elle disait, mais c'est un retour en arrière par rapport au féminisme déjà et aux conditions des femmes, mais qui est phénoménal et qui en plus est fait par une femme, parce que c'est ce qu'elle disait dans l'article, c'est qu'en prime, le fait que ce soit la maire de Cologne, ça légitime auprès des masculinistes le fait que, ah, vous voyez, on avait raison, parce que même elle, qui est une femme, elle le dit. Et c'est là que ça devient vraiment quelque chose qui fait effet boule de neige. Et ces injonctions-là, mine de rien, elles sont parties de Cologne, mais elles se sont baladées partout dans le monde, parce qu'on les a retrouvées aussi en Égypte. Vous savez qu'en Égypte, il y a un phénomène extrêmement grave depuis des années de harceleurs de rue et de viols de rue. Et en fait, le général Sisi, qui est à la tête de l'Égypte en ce moment, dans une conférence de presse, s'est inspiré de la maire de Cologne pour donner un code de bonne conduite aux jeunes femmes égyptiennes. Voilà. Et vous voyez, donc ça fait cette espèce de boule de neige assez, assez folle, quoi, quand même, et qui n'est pas anodine.
Et en plus, en fait, de toute façon, le problème, déjà, c'est le renversement de vapeur, bah oui. Quoi. C'est-à-dire qu'on fait porter aux victimes la responsabilité de ce qui se passe ou de ce qui a pu se passer. Donc là, encore une fois, en fait, je repensais au doc sonore qu'on a passé la semaine dernière, ouais. Où la personne disait, quand tu dis white à la place de blanc, ou si tu dis white même, en fait, ça donne toute la bêtise de dire mes amis black, tu vois. Et bien, je trouvais que là, il y a un peu pareil. C'est-à-dire que si tu inverses le truc, tu prends une autre situation, tu dis les personnes qui se font agresser pour cause de racisme, il faut... Enfin, je sais même pas. Il faut blanchir. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et je me dis, mais t'entends ce que tu dis ?
Mais c'est ça, et c'est qu'en fait, c'est là que c'est un vrai retour en arrière. C'est-à-dire que, et en plus, le problème, c'est que c'est venu dans une période où ça légitime tout un courant de pensée. Alors attention, on va être très clair. Il y a des gens en France qui ont applaudi des deux mains, notamment la droite réactionnaire catholique. Qui disait, mais oui, vous voyez, depuis des années, on vous le dit que si elle ne s'habillait pas comme des Marie couche-toi là, hein, elle ne se ferait pas violer, les petites connes, hein, parce que ça, généralement, c'est ce qu'ils rajoutent après. Vous voyez, c'est un peu le truc, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de nauséabond qui est venu en réponse à déjà quelque chose qui était inadmissible. Et qui était nauséabond aussi, tu veux dire, l'agression de dizaines de personnes, c'est juste quelque chose qui n'est pas excusable, ou voilà, enfin, à un moment donné, il faut se regarder les choses en face. Et là, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a aussi eu tout un pan du mouvement progressiste, et notamment féministe, qui s'est retrouvé embourbé avec une extrême droite qui a été très douée, qui a récupéré très vite cette histoire de Cologne. Et du coup, en face, les gens se sont dit « Ah non, mais nous, si on réagit, on va donner de l'eau au moulin de... » Mais le problème, c'est qu'il fallait réagir sur ce que c'était, des agressions sexuelles.
Mais c'est ça,
mais quelle que soit l'origine de l'agresseur, son nom, ou qu'il soit un notable ou un pauvre, on s'en fout. C'est qu'une agression sexuelle, ça se dénonce, point barre. Et ça se combat aussi, accessoirement. Hein. Mais donc, du coup, voilà, et, vous voyez, c'est toutes ces injonctions là qui sont venus se mettre en branle. Et alors, c'est allé encore plus loin en ce moment dans la bêtise. Alors, c'est pas lié à l'affaire de Cologne cette fois-ci. C'est que c'est pour montrer à quel point on est dans une société patriarcale, machiste, et où en fait le sort des femmes intéresse très très peu les gens. Au Kansas, il y avait une loi contre la violence conjugale. C'est-à-dire que ça aggravait quand on passait devant le tribunal. Et puis, comme ils ne savaient pas trop quel type de tribunal devait statuer sur la violence conjugale, maintenant, ça fait bientôt 4 mois que la loi est suspendue et que si vous tabassez votre femme au Kansas, en fait, vous risquez rien. Parce qu'en fait, vous n'avez même plus... c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de dénomination sur l'acte que vous allez commettre.
Oui, et personne ne voit l'urgence de statuer rapidement sur quelle cour doit s'occuper de ce genre de cas.
Et c'est ça. C'est que ça fait 4 mois qu'on se pose la question de se dire « Mais alors, cette loi, on la met sur quelle cour hein ?» C'est un peu le problème. Et donc, on voit bien que c'est extrêmement répandu et que le retour, on va dire, réactionnaire, c'est-à-dire, c'est dans ce sens-là que on en parlait dans la prépa, le mot réaction, c'est-à-dire le retour, en fait, d'un courant de pensée extrêmement réac, se voit un peu de partout. Et qu'aujourd'hui, les femmes, comme le disait Simone de Beauvoir, en cas de crise, c'est les premières à en prendre plein les dents, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on met de côté tout ce qui concerne, finalement, les femmes. C'est-à-dire que ça devient un combat secondaire et on dit ah oui, non, mais quand même, il y a celui-là avant, il y a ça avant, il y a ça avant. Sauf qu'en fait, c'est 50% de l'humanité quand même. Hein.
Mais c'est tout ce truc de hiérarchisation des luttes. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas lutter contre le patriarcat et contre le racisme en même temps. Mmh. Quand tu dénonces un violeur, tu dénonces un violeur en fait. C'est ce que tu disais. Enfin, c'est un agresseur.
En fait, le problème, c'est qu'on se met à s'auto-censurer par peur du fantasme, en fait. Et c'est ça qui est dingue. Alors, quand je dis fantasme, c'est pas sexuel, hein, très clairement, dans ce cadre-là. C'est le fantasme de l'autre qui va avoir quelque chose de... Si vous dénoncez clairement les choses, vous dénoncez les agresseurs. Vous n'avez pas besoin de dire que c'est un agresseur d'origine machine, on s'en fout. Vous dénoncez les agresseurs, voilà. Le problème, c'est qu'effectivement, on a une droite, une extrême droite, une partie de l'opinion publique qui va aller chercher à avoir le fantasme de l'autre. C'est-à-dire l'agresseur, c'est forcément celui qui ne me ressemble pas. D'abord, je vous le rappelle, parce que ça rejoint le chiffre que je donnais tout à l'heure. C'est que ça dédouane comme ça des gens qui, dans les familles, dans les amis, dans les proches, sont des violeurs et qui du coup disent « Ah bah non, mais ça peut pas être moi parce que c'est l'autre. Regardez, il ressemble plutôt, normalement, il me ressemble pas, il est plutôt plus banasané de peau, ou alors il a telle religion, ou alors il a tel truc. » Mais si vous avez peur d'alimenter ça, c'est que votre discours n'est pas clair. Ouais. Et c'est qu'à un moment donné, c'est pas l'agresseur, c'est que vous commencez à dédoubler la personne qui est l'agresseur. L'agresseur, c'est un agresseur, point barre. Mmh. Et ça s'arrête là. Et si vous commencez à avoir un discours clair...
Mais pas d'excuse au viol, quoi. Pas d'excuse, n'excusez pas à l'agression, enfin... Mmh. C'est quand même assez terrible. Alors, on peut ensuite peut-être discuter, mais je veux dire... Non, la première des choses, c'est une condamnation quand même des actes, quoi. Enfin, merde, quoi.
Et puis surtout, il ne faut pas oublier que dans le monde, c'est quand même ce qui est le mieux partagé. C'est-à-dire que le viol est quand même malheureusement ce qu'il y a de mieux partagé dans le monde, quelle que soit la culture, l'origine, la religion, le lieu. Globalement, des viols sont produits. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui serait lié à une religion, à une culture, à un endroit, au fait qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ou quelque chose. Non, c'est juste lié à la domination masculine et au patriarcat. Et qu'en fait, c'est la volonté de domination qui s'exprime à travers le viol. Et donc, du coup, en minimisant, finalement, on fait que revenir en arrière. Et en ayant peur de nous-mêmes, c'est-à-dire en ayant peur de dénoncer ce qui doit l'être, on finit par légitimer ceux qui, depuis des années, cherchent à faire repasser un discours réactionnaire. Alors, en France, il y en a plein. Hein. Je vais donner des exemples. Hein. Éric Zemmour, par exemple, parce que c'est un très bon exemple. Christine Boutin, voilà. Mais aussi des gens comme Tariq Ramadan, mais aussi des gens comme Alain Finkielkraut, sont des gens qui, en fait... sous couvert de faire de la sécurité et de la sûreté, veulent en fait nous empêcher de vivre, et surtout en priorité empêcher de vivre les femmes. Et c'est quand même quelque part quelque chose à méditer. Quand on commence à régresser sur ces choses-là, c'est-à-dire sur ces actes-là, quand on commence à les minimiser, quand on commence à les noyer dans la masse, quand on dit mais oui, mais c'est la fameuse que je disais au début, oui, mais il y a aussi des viols à la fête de Munich, oui, mais ça ne rend pas plus acceptable le viol d'un moment T. En fait, on ne fait qu'affaiblir un combat qui, faut pas se mentir, est loin d'être terminé et qui, malheureusement, aujourd'hui, a plus d'ennemis que d'alliés. Et c'est ça le problème fondamental, je crois.
Et puis, j'ai une petite pensée pour celles et ceux, ou certains ou certaines, qui parlent d'un post-féminisme, que ces luttes seraient passées et dépassées, hein, parce que la situation des femmes...
serait parfaite, ouais.
Eh ben, merde. Ouais, il y a un vrai problème, là, hein. On passe à la musique peut-être ?
Ah bah allez.
Non ?
Ouais. Oui, c'est ça.
Ouais, allez.
Je n'aimais pas beaucoup la semaine d'été. Salissant les pare-brises. Je n'aime pas les nouveau-nés trop entêtés. Les yeux clos, il faut les rouvrir, le force à tout rasoir. Je ne supporte pas les enterrés vivants. Je n'aime pas les bronzes qui s'envoient en l'air. Alors qu'il y a des millions de voitures sans carburant, je suis inadapté. Je n'aime pas beaucoup les corps privés de tête, ni les chars crucifiés. Je supporte très mal les morts et les blessés. Susceptibilité. Je déteste les gens qu'on le couvre de miel et qu'on attache sous le soleil amélioré. Pourtant c'est bien normal, il faut que les fourmis bouffent. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je vois le mal partout. Je suis inadapté.
cochon dans la gorge étranger. Et les yeux arrachés. Ni les femmes qu'on jette à la mer dans un sac. Avec un chat vivant. Je suis contre tous ceux qui descendent au tombeau. Je n'aime pas les gens à qui on a coupé les jambes et les bras pour leur apprendre à vivre. Ils ont sur la bouche un rire idiot, la barbarie. Je suis inadapté.
Ah, la bonne vieille Brigitte. Et ouais, on est de retour dans la causerie et on vient de s'écouter Brigitte Fontaine en duo avec Arnaud et qui nous chantait Inadapté. Voilà. Et puis, on va attaquer le troisième sujet.
Oui.
Et t'en parlais un petit peu avant, en fait, des réacs, tout
ouais.
ça. Et puis, on va venir en plus. C'est vachement bien. C'est un peu une info locale.
Ouais.
Mais avec un rayonnement peut-être bien plus que local.
Malheureusement.
Ben oui.
Donc voilà.
Tu voulais nous parler de Wauquiez, en fait, de Laurent Wauquiez.
Oui, de Laurent Wauquiez. Vous savez, alors, pour ceux qui auraient été cryogénisés ces derniers temps, Laurent Wauquiez a gagné la région Rhône-Alpes-Auvergne. Hein, donc, il est à la tête de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Parce que des gens sont allés voter pour Laurent Wauquiez. Ils ont mis des bulletins avec marqué le nom de Laurent Wauquiez et il a eu plus de bulletins que les autres. Et donc, c'est lui qui est devenu grand chef de la région. C'est pour mettre un petit peu.
Oui.
Voilà. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ces gens, ils sont allés voter. Hein, ils ont mis des bulletins Laurent Wauquiez et tout, dans le jeu, je le redis, avec des colistiers et des colistières. Parce que c'était ça qui était, je vous rappelle, c'était la région qu'on élisait. Hein, donc, c'était grand bulletin, ça rentre pas dans l'enveloppe, tout ça, enfin, pour ceux qui m'ont voté. Et du coup. Du coup, en fait, eh ben, ils ont mis plein de colistiers et colistières. Et dans les colistiers et colistières de Laurent Wauquiez, et je ne me ferai pas l'honneur de donner leur nom, eh ben non, il y a plein de gens de la Manif pour tous. Et voilà, donc c'était important que les gens le sachent. Mais surtout, on l'avait dit avant, hein, donc c'est quand les gens votent quand même pour, c'est que ça leur plaît de mettre
Ah bah
des...
c'est qu'ils aiment, hein.
C'est ça, c'est que c'est un petit peu comme quand les gens votent Front National, ou bah, c'est qu'ils aiment aussi. Hein. C'est rarement parce qu'ils sont trompés. Hein, voilà, donc en gros, on a un élu aujourd'hui à la tête de la région qui a des gens de la Manif pour tous très clairement identifiés, hein, qui étaient à la tête des grands cortèges lyonnais. Vous souvenez, il y avait des cortèges parisiens et lyonnais de ces homophobes racistes et idiots notoires qui défilaient dans les rues. Et ben, en fait, ils étaient dans le deuxième, troisième, enfin non, ils étaient troisième, cinquième et septième sur la liste. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont fortement élus, hein, c'est comme ça, parce que vous savez qu'il y a une règle très démocratique qui fait que la liste qui arrive en tête a déjà d'office 25% de l'Assemblée, plus son pourcentage. Donc, c'est-à-dire que, okay. En gros, voilà, ça permet que... Ça, oui, c'est, on paraît que ça s'appelle la démocratie.
Ouais, non mais oui.
Donc, étrange. Enfin, voilà. Donc, du coup, ils étaient forcément élus. Et Laurent Wauquiez, il n'est pas bête. Au lieu de faire comme a fait la région PACA de... Comment il s'appelle ? Estrosi, c'est ça. Mmh. Un autre grand républicain. Donc, en fait, lui, il n'est pas bête. Il ne les a pas mis sur des postes où ça se voyait trop. Parce que, en fait, en région PACA, ils ont pris une nana de la Manif pour tous et ils l'ont mis à la famille. Bon, là, ça a fait un peu hurler dans les brancards. Les gens disent, ça va pas, machin et tout. Bon, alors après, ils l'ont renlevé, enfin, c'est une petite entourloupe, machin et tout. Mais le truc, c'est que Wauquiez, il est plus fin politiquement que Estrosi. Bon, ça, on n'en doutait pas trop. Et du coup, lui, il les a mis un petit peu sur des postes annexes. Mais surtout, il les a mis au budget. C'est-à-dire qu'il faut être très très cohérent. C'est-à-dire que, en fait, dans une région, à quoi ça sert la région ? Ça sert à faire des lycées, des routes, des transports en commun, notamment hors grande agglomération, c'est-à-dire tout ce qui est TER, voilà. Les bus intercités, tout ça, ça c'est la région. C'est aussi le département, c'est un peu compliqué, c'est un peu mélangé, mais bon. Mais la région, c'est principalement les TER, c'est principalement les trains grande ville. Et puis, c'est aussi des aides. Alors, des aides assez précises quand même. Hein. Il y a des aides à la famille, au sens large. Il y a des aides à la culture, au sens très large aussi. Et il y a des aides, en fait, aux gens qui viennent en aide aux autres. Voilà. Donc, aux associations d'entraide. Mmh. Et en fait, c'est drôle, parce que assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il avait mis des gens d'extrême droite, quand même, parce que tout de suite, ils ont dit, on va arrêter les aides à la culture. Hein.
C'est, oui, c'est...
Parce que c'est Monsieur Wauquiez qui disait, il faut arrêter de financer les écoles de cirque, parce que les enfants,
ah oui, c'est
ça
vrai,
sert à rien, quand même.
Oui,
hein. Voilà, prendre à jongler la baballe, c'est pas comme ça qu'on va trouver du boulot. Hein. Voilà. Bon. Donc, en fait, il le met en place, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des subventions à la culture qui sont en train de baisser, mais on a aussi des subventions sur les associations. Donc, il y a notamment toutes les associations dites LGBT, comme on dit, voient leurs subventions diminuer, disparaître, être transformées, être conditionnées. Et c'est pas encore le cas tout à fait, parce que vous savez qu'on est dans l'exercice budgétaire, donc on termine celui de la mandature précédente, mais on sent bien venir qu'il va y avoir de la transformation. Mais c'est aussi vrai pour le planning familial, c'est aussi vrai pour des associations d'aide aux femmes, aux mères célibataires, c'est aussi vrai, voilà, donc on voit bien la logique qu'il y a derrière cette, le fait de mettre des gens de la Manif pour tous dans des postes au budget. Vous voyez, c'est bien mieux, c'est plus simple que de les nommer à une place où on voit que c'est eux.
Bah oui, c'est ça, ça ferait du bruit, alors que là, fino, personne n'a rien à voir.
Exactement.
Ouais, voilà.
Et puis bon, on est quand même dans un système capitaliste, hein, donc c'est quand même celui qui a les cordons de la bourse qui dirige le monde, comme on dit. Donc, c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire et ce qu'ils avaient un peu magouillé. On va rappeler qu'on n'est pas surpris que Laurent Wauquiez est un des rares candidats qui était allé prêter allégeance à la Manif pour tous juste avant l'élection. C'était à Villeurbanne, souvenez-vous, il y avait eu un grand happening devant, fait par notamment le planning familial et super féministe. Et donc, il était allé leur dire que oui, non seulement il était d'accord avec leurs idées, mais qu'en plus, si lui devenait un jour Premier ministre ou Président, parce qu'il y croit vachement, il n'y a pas de problème, il ferait sauter tout le mariage pour tous, il empêcherait les homos d'avoir des enfants, enfin, je ne sais pas, peut-être stérilisation, je ne sais pas trop quoi, mais bref, non, c'est un truc un peu surréaliste, mais il n'a pas peur, hein. Le Lolo, hein, il y va franco en général, parce que c'est un petit peu le mec de bonne famille en plus. Vous voyez, il a une bonne tête, il sourit bien, sourire très carnassier, et puis il écrit des livres, voilà.
C'est vrai.
Ah ouais, il écrit des livres.
Aussi bon que ceux que Nicolas Sarkozy écrit.
Le problème, c'est que lui, il en vend par contre.
Ah,
et
ouais.
C'est peut-être ça qui est inquiétant.
Effectivement.
C'est-à-dire que là où Sarkozy vend pas vraiment beaucoup de livres, là où Christine Boutin en vend 38, Wauquiez lui vend. C'est un bon vendeur de livres. Ouais. Et alors, comme ça, les gens ont pas l'air, mais c'est important. Parce que c'est souvent par les livres qui sont le plus vendus que, vous voyez, l'opinion publique est en train de se répandre. Alors, c'est inquiétant parce que les trois derniers livres qui sont bien vendus, il y a le livre d'Éric Zemmour, qui avait fait un gros succès, donc ça c'est un peu flippant. Il y a le livre de Philippe Devilliers, qui, comme tout le monde le sait, est un gars d'extrême gauche très sympa, hein, non, qui est très très à droite. Et en quatrième position, parce qu'en troisième il s'est fait juste un tout petit peu griller par le livre politique de Juppé, il y a Laurent Wauquiez. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'influence sur la vie politique nationale, contrairement à ce qu'on essaye de croire, même s'il était maire du Puy-en-Velay, ça mène à tout. Et du coup, en fait, il a des idées qui commencent à rentrer dans la tête du corpus, on va dire, libéral, comme par exemple celle de dire qu'on pourrait très bien travailler 42 à 45 heures par semaine. Voilà.
Ça, c'est vraiment un mec bien, ce
Laurent. Sa dernière grande trouvaille. Et il dit ça, en fait, parce qu'il dit, bon, après tout, vous savez, c'est émission thématique. On vit plus longtemps. Et on vit bien.
Ben oui, donc on travaille plus longtemps.
Donc on peut travailler plus longtemps. Hein, allons-nous épuiser au travail, vu qu'il faudrait quand même pas qu'on voit.
Tout se tient.
Sauf que, bah oui, bien sûr, il prend la fameuse moyenne dont je vous parlais au début de l'émission, plutôt que de prendre la durée de vie en bonne santé. C'est tellement plus facile. Mmh. Et donc, voilà. Et donc, lui préconise qu'on travaille 42 à 45 heures, qu'on réforme la sécurité sociale pour la confier au privé, qui serait plus efficace, d'après lui, en gardant, en fait, uniquement les urgences. Parce que, quand même, pas poussé. Tout ce qui est urgence, la sécu que pour les urgences.
D'accord.
Voilà. Il a des idées très très drôles sur la famille. Hein. Il estime que la famille, c'est le socle premier de la République.
Waouh.
Ouais, ça fout un peu la trouille. Hein. Voilà. Et qu'il faut donc préserver et sauvegarder la famille. Très clairement, je soupçonne M. Wauquiez d'être anti-avortement, même si aujourd'hui, il ne le met pas trop en avant, parce que je pense que quand même, il a une idée de carrière politique. Et que globalement, heureusement, c'est une idée qui est rentrée majoritairement dans la tête des Français. Mais très clairement, dans ses discours, on sent quand même une très grande influence de la droite catholique dure, et voire même de l'extrême droite catholique. Et le problème, c'est que Wauquiez le vend très bien, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas aussi bouffon qu'un Estrosi, pour être très clair, ou aussi remuant qu'un Sarkozy, quoi.
Et c'est un peu C'est un peu un jeune en politique, non ?
Oui, c'est,
mais
c'est
il a
ça.
Pas, en tout cas, il a cette image-là. Parce c'est, que...
Il a l'image. En fait, en réalité, il a fait qu'une carrière politique. Il a quasiment pas bossé de sa vie. Il a toujours été élu, ou quasiment. Mais il a cette image de renouveau. Donc, du coup, c'est là qu'il est inquiétant. Et alors, faut pas se leurrer. Gagner la région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est extrêmement important pour quelqu'un comme lui. Parce que c'est un tremplin. Vraiment.
Ah, oui.
C'est la première région économique de France après la région parisienne. Enfin, la deuxième, contre la région parisienne. Mais c'est important parce que c'est comme ça qu'il le présente, lui, toujours. C'est pour ça que j'ai fait cette phrase-là. Vous voyez ? C'est la première région économique après la région parisienne. Ce qu'il laisse entendre, quand les gens retiennent, c'est la première région économique. On oublie qu'il avait enlevé Paris. Et en fait, donc, il a une grande ambition nationale. Et cet homme-là présente extrêmement bien, est très souriant, a pu se faire inviter à droite et à gauche par des gens qui pourraient nous surprendre. On se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il allait faire à la Ligue des droits de l'homme, par exemple, ou des choses comme ça. Et voilà, donc c'est... voilà, je voulais parler de lui parce qu'on en parle peu, alors que quand même, il fait beaucoup de mal et qu'on est concerné. Parce que je vous rappelle que Lyon est un tout petit peu dans la région Rhône-Alpes, hein, Rhône-Alpes-Auvergne. Oui, je sais pas comment elle s'appelle. Ils ont pas donné encore de vrai nom à la région. Parce que c'est... Non, mais c'est dommage, parce que Rhône-Alpes-Auvergne, c'est assez long quand même. Hein.
Ça va, ça fait des exercices de diction.
Voilà. Mais donc, du coup, voilà. Et puis, je voulais finir sur une note joyeuse, quand même. Oui, parce que M. Wauquiez a des potes chez Civitas. Voilà. Alors, il dit que c'est pas tout à fait vrai, sauf qu'il y a plein de photos où on le voit avec des gens de chez Civitas. Alors,
c'est comme Marine Le Pen, voilà. En fait, elle a jamais d'amis racistes.
C'est pas de bol, en fait. Je pense qu'il va des soirées des amis d'amis, il va des soirées cagoules, et hop, quand ils enlèvent la cagoule, c'est des gens de Civitas. Oh mince. Voilà, vous voyez, bon, c'est des trucs qui arrivent, hein, et hop, photo. Voilà. Non, en fait, on sait qu'il est assez proche de Civitas, puis bon, comme on disait, par rapport à ses positions, c'est pas surprenant. Eh ben, Civitas vient d'être retiré de la liste des associations reconnues d'intérêt général. Donc, lorsque vous donnerez un don, pas vous, auditeurs et auditrices, mais lorsque des gens feront des dons à Civitas, eh ben, ils ne pourront plus le retirer des impôts. Et voilà, ça, c'est bien. Alors que si vous voulez en faire à Radio Canu, vous pouvez, et c'est retiré de vos impôts. Bon, bref, ça, c'était dit. Mais non, mais c'est une super bonne nouvelle de dire que, voilà, Civitas a été retiré de cette liste parce que il est reconnu comme prenant la haine et vous ne pouvez pas avoir des subventions lorsque vous prenez la haine en France. Et voilà. Mais donc, c'était la bonne nouvelle, c'est de me dire que, ben, quand même, les copains de Laurent Wauquiez en prennent un peu plein les dents. Alors, un jour, peut-être lui. Allez savoir.
Ouais.
Peut-être.
En attendant, ils ont quand même le pouvoir.
Mais c'était pour rappeler quand même que, voilà, il y avait cette petite bonne nouvelle. Puis, juste avant qu'on coupe, parce que celle-là, je peux pas m'empêcher, je suis désolé. Je vous ai dit qu'ils n'avaient pas donné de nom à la région et tout. Et en fait, Laurent Wauquiez, il ne veut pas venir siéger à Lyon. Parce qu'il dit qu'à Lyon, il est méchant, le maire de Lyon, avec lui. Parce que il a fait vous savez, le siège de la région, c'est là où il y a l'espèce d'oiseau là. Comment ça s'appelle, le musée des confluents.
Ouais.
Bah, c'est à côté.
D'accord.
C'est en face des confluents, enfin, en face du centre commercial. C'est tout à fait logique, non? Et ben voilà, c'est le siège de la région et il veut pas. Et alors il essaye de faire.
Pourquoi il veut pas?
Et ben il dit parce que Gérard Collomb, il a été méchant avec lui.
Mais arrête, Gérard, il est de droite.
Et ben c'est ce que je voulais dire.
Il devrait s'entendre en fait.
Tu vois, je voulais venir à ça. Pourquoi il s'inquiète?
Pourquoi il s'inquiète?
Ils ont les mêmes idées presque.
Bah, ah oui.
Donc voilà. Viens.
Bah, mais oui.
En plus, comme ça, vous serez plus facile à trouver. Allez, musique.
Quiau derantus queversus mature censuntu, profanum vulgus et inscium ne attractatu, omnesque barbara, psychologie, sociologie, politici, economici, flici, procul sunto, qui aliter facit sute sacer esto. Première descente aux enfers par la face nord. Je m'avale sur la scène, le père fouettard est mort. Mais on apprend la haine dans nos livres d'histoire. On devrait s'amuser à détraquer l'ennui, à tout mettre en danger devant notre folie. Liberté, liberté, liberté. Eh ben ouais quoi. We'll be right back. victoire en chantant nous ouvre la barrière. Mon pied entre les dents, je cherche ma civière. Je réserve les cieux pour d'autres aventures. Ce soir je sais que Dieu est un fox à poil dur. Liberté, liberté, liberté. Je descends aux enfers par l'entrée des novices. Offrir à Lucifer mon âme en sacrifice. Je boirai dans un crâne le sang du déshonneur, en piétinant les mâles des marchands de bonheur. Liberté, 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 liberté. Qui courait dans l'herbe, on la prend par la queue, on la montre à ces messieurs nous disent garde à vous.
Et vous êtes de retour à la causerie. Après un délicieux titre de Hubert Félix Stephen, c'était Première descente aux enfers par la face nord. Voilà, c'est sur un vieil album et je vous conseille d'écouter tout ça. Tout ce qu'a fait Hubert Félix Stephen et ce qu'il continue de faire.
Tout à fait.
Et bien, la causerie, on approche tout doucement quand même de la fin. Et puis, on est dans les temps. Donc, on va tâcher d'y rester, hein, dans les temps.
C'est un peu humide. Peut-être dans les temps. Enfin, bon, bref, c'est pas grave.
À l'étang, voilà, l'étang du dos,
voilà,
quoi.
Elle est nulle, cette blague.
Ok. Bon, effectivement, il est temps de raccrocher. Alors, on va commencer... par nos rendez-vous, n'est-ce oui. pas ? Notre petit agenda des rendez-vous militants et autres.
Tu commences ?
Oui, alors le souci... Si, c'est bon, j'ai l'info. Déjà, si vous rappelez tous les lundis, en fait, qu'il y a...
une permanence juridique.
C'est ça.
Pour les sans-papiers.
Pour les sans-papiers.
Et leurs amis.
Oui, c'est à la...
La Lutine.
C'est à la Lutine ?
Ouais. Ou ouais. L'atelier des canulars.
Ouais, atelier des canulars ou la Lutine. En tout cas, l'adresse, c'est au 91 rue Montesquieu. C'est forcé, vous y
trouvez. Et à 18h30.
Ouais, c'est ça, ça c'est tous les lundis. Ensuite, mardi 2 février, donc, il y aura une réunion publique par le collectif Stop État d'urgence. Ça se passera à la maison de la Guillotière à 21h, donc mardi 2 février. Et c'est au 27 rue Béchevelin, c'est ça ?
Oui, Béchevelin.
Dans le 7e. Alors, il faudra quand même juste qu'on m'explique comment au front de gauche... On arrive à être dans un collectif
contre l'état d'urgence,
contre un état d'urgence sur lequel on a dit OK.
Après l'avoir voté,
ouais.
Bah ça s'appelle les élections présidentielles de 2017.
Ah ouais, OK, d'accord.
Il est temps de se refaire une image de gauche.
D'accord, OK, d'accord. Non mais c'est
ah mais
juste...
toi, faut tout expliquer.
Bah,
hein.
Ouais, c'est-à-dire que la politique politicienne. C'est...
T'as pas compris que Mélenchon c'était Che Guevara en France. Sans déconner.
C'est ça. Donc.
Tu suis rien.
Non, c'est vrai. Et ben vas-y. Après, je
et ben après, c'est des... Welcome to the Hotel California. En fait, c'est le grand squat qui se trouve au 69 avenue Mermoz-Spinel dans le 8e. Et tous les mardis, enfin non, une fois par mois, et c'est le premier mardi du mois, donc ce mardi, mardi 2 janvier, il y a la grande cantine. Donc allez manger là-bas, c'est vachement bon, hein, se préparer. C'est de la cuisine albanaise et rome, je crois, c'est la thématique de cette grande cantine-là de mardi. Et puis, bah, tous les sous que vous allez donner en prix libre, et bah, ça ira en fait pour aider les gens du squat et puis leur famille. Parce que voilà, c'est vachement bien. Donc il faut y aller.
Yes.
C'est 60 avenue Mermoz-Spinel, Hôtel California.
Ok. Et t'as quelque chose après encore ?
Oui, j'ai quelque chose. Excusez-moi, je reprends mes notes. Alors, jeudi 4, comme vous allez avoir une soirée bien remplie, vous allez commencer par aller à 18h place Bellecour pour gueuler après le fait qu'on a envie de mettre 8 syndicalistes en prison. Et vous allez aller soutenir ces gens en allant place Bellecour et en disant il y en a marre quand même qu'on mette en prison les syndicalistes plutôt que de mettre les patrons qui tuent des gens. Voilà. Et puis, après ça, comme vous aurez un peu de temps encore, et qu'il sera 20h à peu près, et que vous serez un peu froid, vous allez aller vous réchauffer à la MJC du Vieux-Lyon, qui passe un film sur le bonheur national brut. et qui est suivi par un débat « Changer le rapport au travail ». Donc c'est à 20h à la MJC du Vieux-Lyon, place Saint-Jean, comme tout le monde le sait. Oui, c'est une belle soirée. D'abord, je vais soutenir des syndicalistes, oui. Ensuite, je vais au cinéma.
Je n'irai pas au cinéma, mais par contre, je serais curieux d'avoir des retours. Parce que moi, changer le rapport au travail, c'est-à-dire que j'aurais juste tué le travail. Quoi. J'ai pas envie de changer mon rapport au travail. Quoi.
C'est un petit peu le truc qui m'a
ça fait genre, on n'est pas adapté, tu vois, justement.
Non,
avant.
Je crois que c'est pas ça.
Non, mais merde.
Qu'il y a une notion de baisser le temps de travail, tout ça, tout ça derrière.
D'accord. Parce que là,
j'ai oublié de dire que c'était gratuit.
Oh, cool.
Voilà, donc, enfin, je sais pas si c'est gratuit ou à prix libre, mais en tout cas, vous pouvez y aller gratuitement, sans problème. Okay. Voilà. Et puis, comme vous serez allé le 2 à l'annonce du collectif Stop État d'urgence,
La
réunion publique qui va vous expliquer quand est la manif, ben nous, on exclut, on vous dit que la manif, non, je déconne, et c'était déjà prévu, la manif est le samedi 6 à 17h, place Jean Masset. Donc voilà, c'est une manifestation contre l'état d'urgence, pour la levée de l'état d'urgence, voilà, c'est clair, pas grand chose d'autre à dire. Et puis ben, c'est à peu près tout ce que j'avais dans l'agenda militant de cette semaine.
Et ben formidable, et puis voilà. Ben, regardez autour de vous, il y a des musées, il y a plein de choses à faire aussi, oui. pour se remplir un peu la tête, oui. De choses un peu différentes.
C'est vrai, il y a le musée d'art contemporain qui bientôt va recevoir Yoko Ono, par exemple.
Ouais, c'est vrai ça.
Voilà, mes petites infos comme ça.
Tranquille. Bah voilà, Clara, une petite info, un truc.
Non, une BX à vendre. Quelque chose. Non, rien du tout. Demain, normalement, il fait un peu plus froid qu'aujourd'hui et il pleut.
Ouais, voilà. D'accord, merci.
Donc bonne chance à ceux qui travaillent dehors.
Ouais, oui.
Et t'en sais quelque chose. Donc, voilà. Voilà. On se quitte.
Eh ben oui, on va se quitter. On va se quitter avec quoi? Ah mais c'est toi qui annonce le dernier.
Mais c'était ça.
Pardon. Ah mais alors ce que je vais peut-être faire quand même vite fait avant qu'on annonce tout ça, c'est quand même redonner vite fait le blog de la causerie pour les anciennes causeries, pour commenter, etc., pour échanger. C'est toujours blogs.radiocanu.org/lacauserie et vous pouvez nous envoyer des mails aussi. Fab, tu peux peut-être rappeler le mail avant.
lacauseriecanu@gmail.com en mettant bien lacauseriecanu@gmail.com et pas juste la causerie.
C'est ça. Parce qu'on ne pourra pas vous fournir à manger. n'importe quoi. Et ben voilà, on vous souhaite. Ah non, Fab.
Ah non, attends, je vais peut-être dire avec quoi on se quitte quand même.
Ouais,
parce que
ouais,
j'avais oublié effectivement de le faire, mais je vais le faire maintenant. Ouais. Donc c'est un titre qui s'appelle A Little Mercy. Enfin, A Little Mercy, quoi, en français. Et c'est de Handcraft Soul. Soul, je sais pas, je suis nul en anglais.
Handcrafted Soul.
Handcrafted Soul.
Ouais.
Enfin bon, vous chercherez sur le blog, il y a tout écrit, je suis nul en anglais, je suis désolé. Clara, peut-être que tu saurais mieux le dire, non?
Oui, c'est tout à fait ça, non.
Ok, merci. En tout cas, merci pour la technique parce que tu as assuré, même avec les petits problèmes de micro qu'on a eus. Et un petit rappel pour les gens qui font de la radio à Radio Canu, remettez à zéro vos réglages, bon sang. Voilà. Allez, des bisous.
Et ben, bonne soirée à toutes et à tous et bon courage pour la semaine qui vient. Et puis à la semaine prochaine. Et restez à l'écoute de Radio Canu. Quand il n'y a pas d'émission, il y a des bandes continues qui sont formidables aussi. Et ben voilà, des bisous quand même.
Stress.
Bon, on dit des bisous aussi.
Allez, salut.